L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Françoise El-Koubi, la présidente de l'association Les Routes du Judaïsme Rhénan, qui présente aujourd'hui conjointement avec le Blaushaus de Breisach en Allemagne un programme européen commun du nom de Midorlor et dont les conclusions viennent d'être rendues. Et évidemment, on va parler de ça précisément et en profondeur. Françoise El-Koubi, bonjour.
Bonjour Valérie, merci de m'inviter à cette émission.
Mais avec plaisir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de parler des routes du judaïsme rhénan, de toutes les actions que vous mettez en place pour aujourd'hui porter le patrimoine juif, alsacien, rhénan, au-delà évidemment de nos frontières. Alors commençons par le début, la présentation des routes du judaïsme rhénan, dont le but est la transmission de la connaissance du patrimoine matériel et culturel juif. Comment est-ce qu'elle est née, cette association? Quelle est sa genèse?
En fait, cette association a été fondée en 2004, avec à sa tête Freddy Raphaël, qu'on ne présente plus. Et bon, j'étais à ses côtés et le projet était déjà un projet transfrontalier, particulièrement ambitieux, que nous comptions monter avec la région Alsace et le Land de Bade-Wurtemberg. Et nous étions déjà pas mal avancés, nous comptions demander des financements européens Interreg. Et puis la présidence du Land a changé. Et le président successeur n'était absolument pas intéressé par le sujet. Donc on a posé le projet sur le côté et on l'a repris en 2017. Et donc les statuts avaient été déjà déposés, etc. On a remis en live un projet qui était mis en veille. Et à partir de là... On a développé pas mal de choses. On a été un peu arrêté par la période du Covid, il faut dire. Mais et maintenant, voilà 3 ans que Freddy Raphaël est devenu président honoraire et m'a présenté comme... Et le conseil d'administration a accepté que je prenne la présidence de cette association dont j'assurais le secrétariat général et l'animation déjà.
Donc c'est votre bébé aussi, cette association.
Oui, vraiment. Oui.
L'idée, c'est d'avoir... créer des parcours autour du judaïsme. Il y en a un à Strasbourg, il y en a un également à Bichviller, sur les traces de Claude Vigée. Ce sont des outils pour les guides touristiques professionnels ou c'est pour tout le monde, c'est pour les particuliers également?
Ces circuits sont pour tout le monde. Ils sont sur une plateforme qui s'appelle Easy Travel, qu'on peut télécharger très facilement sur tous les smartphones. C'est une plateforme qui existe pour des villes dans le monde entier. Il y a quelques circuits à Strasbourg, mais il y a celui que nous avons créé qui s'appelle la vie juive à Strasbourg du Moyen-Âge à nos jours. Et à Bichviller qui est plus axé sur les écrits de Claude Vigée dans ses ouvrages sur certains lieux de la ville de Bichviller. Et nous sommes en train de travailler pour en créer un nouveau à Marmoutier. Et puis, bon, j'espère d'autres aussi. Alors, je précise aussi que les routes du judaïsme rhénan fait partie d'un ensemble européen qui s'appelle AEPJ, Association Européenne pour la Préservation et la Valorisation du Patrimoine Juif, qui recouvre en fait un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe et qui rassemble des routes ou des lieux juifs du patrimoine dans de nombreux pays en Europe. Et cette association a fêté ses 20 ans l'année dernière et nous travaillons beaucoup en lien avec cette association, y compris pour la réalisation de ces itinéraires, de ces circuits audio-guidés que nous avons déjà réalisés.
Oui, nous avions reçu dans ce cadre-là Madame Claude Bloch de cette association-là. Est-ce que vous avez, vous, des retours quant au nombre de personnes, par exemple, qui empruntent ces circuits autour des routes du judaïsme rhénan?
En fait, par rapport à la consultation de la plateforme Easy Travel et de ce parcours en particulier, nous pouvons avoir des retours. C'est plusieurs centaines à Strasbourg, c'est beaucoup moins à Bichwiller, mais on peut avoir les statistiques effectivement, et c'est vrai que ce sont des outils qui sont pas mal utilisés. D'ailleurs, on peut les utiliser autrement aussi, c'est-à-dire par exemple une classe dans un collège ou dans un lycée peut le reprendre sur un ordinateur, le projeter sur un écran dans une classe, et en même temps faire comme un cours d'histoire en parcourant Strasbourg. Donc,
patrimoine juif s'inscrit aujourd'hui dans le patrimoine culturel historique de la ville de Strasbourg à part entière. En fait, un touriste, alors j'imagine au marché de Noël, quand il y a 3 millions de visiteurs qui viennent à Strasbourg, il va aussi visiter la maison du judaïsme rhénan, le mikvé ou d'autres endroits qui sont liés à la culture juive, matérielle ou immatérielle d'ailleurs.
C'est un peu difficile à dire parce que les visiteurs du marché de Noël, ils sont très axés sur le Noël et toutes les festivités et toutes les traditions qui sont autour. Donc je crois pas qu'on puisse faire véritablement un rapprochement par rapport à cela. Mais je travaille depuis longtemps, et c'était déjà le cas au moment de la création de l'AEPJ et de la Journée européenne de la culture juive, qui est aussi un bébé, je dirais, qui a été à l'origine en fait de la création de l'AEPJ. Nous travaillons aussi en Alsace avec Alsace Destination Tourisme, et là encore il y a une personne qui travaille à temps partiel selon les cas, selon les projets avec nous. Donc l'aspect développement du tourisme est une des axes de développement. L'autre, c'est l'éducation, c'est la transmission, c'est l'histoire, la sensibilisation. Je dirais tout ça, c'est aussi une façon de résister à l'ambiance actuelle et l'antisémitisme d'atmosphère.
C'est un moyen de donner des outils pour lutter contre l'antisémitisme, ce travail de mémoire, de passer cette mémoire aux plus jeunes, qui plus est.
Tout à fait. Tout à fait.
Le patrimoine juif rhénan qui s'ouvre forcément, enfin qui s'ancre forcément des deux côtés du Rhin. Le Blass House, on en parlait tout à l'heure, une association allemande. De quelle façon vous vous êtes rapprochés? Et après on parlera évidemment du programme Midor-Ledor que vous avez œuvré en commun. Mais pour l'instant, le Blass House.
Alors la Blass House, ou Maison Bleue tout simplement, et c'est une maison qui est peinte en bleu, se trouve à Breisach. En Alsace, on dit vieux Brisac.
Oui.
C'est au bord du Rhin. Et c'est une personne qui s'est battue, qui a fondé cette association et qui a réussi à racheter cette maison, qui était l'ancienne maison communautaire de Breisach. Il y avait une communauté juive importante.
Breisach, c'est du côté allemand.
Du côté allemand.
D'accord,
du
oui.
côté allemand. Et on a fait une maison mémorielle tout à fait extraordinaire, puisque c'est à la fois une forme de musée sur la vie juive, avec des stations où on peut entendre les sons de ce qui se passe dans cette chambre ou dans cette pièce. L'une représente comme une salle de prière, l'autre c'est une salle à manger avec la table qui est préparée pour le Shabbat, etc.
Il y a façon un petit peu écomusée.
Oui, moi c'est une petite maison, hein. Oui. Il y a
oui,
quelques pièces.
C'est une maison représentative de la vie d'une époque.
C'est ça. Et puis il y a aussi tout un aspect mémoriel, c'est-à-dire sur un mur du couloir, il y a beaucoup de noms de familles, de ces familles qui vivaient à Breisach. Certaines ont été déportées, d'autres sont parties aux États-Unis. La Maison Bleue a créé un réseau des descendants des familles qui vivent aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Régulièrement, ils organisent des Zooms, donc ces gens se connaissent, ils viennent régulièrement à Brazzard avec leurs petits-enfants pour montrer là où vivaient les ancêtres. Il y a une exposition dans le jardin sur le camp d'internement de Gurs où ont été déportés les Juifs du Pays de Bade en octobre 40. Et il se trouve que Brazzard est le lieu où ces familles ont quitté l'Allemagne puisqu'ils avaient créé ils avaient construit un pont provisoire pour permettre justement de traverser, que les trains, puisqu'ils ont été déportés, c'est-à-dire raflés, mis dans les trains et envoyés à Gurs, c'est-à-dire dans le sud de la France, près de Pau. Donc tout ça est rappelé dans cette Maison Bleue.
Et de quelle façon, justement, vous vous êtes rapproché avec l'association les Routes du Judaïsme Rhénan, oui, et cette Maison Bleue? Je vais le dire à la française, ce sera plus simple pour, oui, moi.
Mais en fait, c'est une vieille histoire parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Gunther Böll qui avait fait beaucoup de recherches sur l'histoire des Juifs de la région des deux côtés du Rhin, qui avait sauvé une Genisa à Mackenheim, par exemple, etc. Et qui était un peu le mentor de Christiane Wallet-Schneller, la présidente fondatrice de la Maison Bleue, et qui travaillait aussi avec Freddy Raphaël, donc en fait les fondateurs. Donc on était rapprochés dès le départ avec eux, et Christiane et Wallet-Schneller est vice-présidente des Routes du Judaïsme Rhénan. Donc lorsqu'on a proposé le projet Midor-Ledor, j'ai voulu qu'il soit franco-allemand et j'ai demandé à Christiane d'être la partenaire, ce qu'elle a gentiment accepté. Et bon, je parlerai des résultats.
Le programme Midor-Ledor, d'une génération à l'autre, en hébreu, une coopération donc entre les Routes du Judaïsme Rhénan et la Maison Bleue à Brisac. Quel est l'enjeu de ce programme?
Alors, à l'origine, en fait, c'est un programme européen financé par l'Union européenne, programme CERV, citoyens, égalité, les droits et les valeurs. Et c'est un programme qui est coordonné par l'AEPJ à l'échelle européenne. Donc, il n'y a pas que nous, les franco-allemands, mais il y a des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des Polonais et des Ukrainiens. Donc, c'est tout un consortium. Le programme en tant que tel a été imaginé en 2012 à Varsovie par une personne qui s'appelle Elise Lieberman, qui a imaginé cette idée, ce concept, cette philosophie de transmission. Nous avons démarré. La Maison Bleue, enfin Christiane Wallet-Schneller et moi-même, au titre des routes, parce que c'est les routes du judaïsme rhénan qui sont officiellement le partenaire dans ce consortium, nous avons commencé par suivre 3 semaines de formation pour justement les coordinateurs des programmes à Barcelone, à Varsovie, à Berlin, chaque fois une semaine, en 2024, entre mai et septembre. Puis, il nous incombait de former un groupe de personnes, de médiateurs culturels, des guides conférenciers, des gens du monde éducatif. Ce public-là. Et de les former pendant 5 mois, puis à eux de créer leur propre projet de transmission. Et donc, on a eu 25-30 personnes au départ, des Français, des Allemands, je dirais à 98% non-juifs.
C'est important, ça, de le dire qu'aujourd'hui, prendre à bras le corps aujourd'hui cette culture et de la préserver et ensuite de la transmettre, c'est l'affaire de tous et c'est surtout l'affaire des non-juifs. En fait, il n'est plus question aujourd'hui de confession, vous êtes une association culturelle.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est important que ce soit justement ouvert sur le monde en général et pas se replier sur soi. Parce que c'est précisément de transmettre aussi et surtout à ce public-là pour qu'ils comprennent mieux ce que c'est que le judaïsme, ce que c'est l'histoire des communautés juives dans cette région, depuis quand, et l'influence qu'ils ont eue dans la culture, la société, ce qu'ils ont souffert et les moments où ils vivaient ensemble en bonne harmonie, etc. Et bon, je je suis très, très fière et très heureuse qu'on ait pu obtenir des résultats par rapport à ce...
Combien de projets au total ont été sélectionnés? J'avais lu 14, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Alors, sachant que du côté allemand, la Maison Bleue développe un projet qui a rassemblé pas mal de médiateurs sur un seul grand projet qui est en train de se préparer, qui tourne autour de Joseph Gunzburger, qui est un peu le Servbär, je dirais, du côté allemand, parce qu'il était aussi proche du prince, du margrave de l'époque, je parle du XVIIIe siècle, et même fin du XVIe, et du XVIIe, pardon, et qui a obtenu à ce que des familles juives puissent s'installer dans 7 ou 8 localités dans le pays de Bade, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'était une façon d'accueillir et de développer de nouvelles communautés juives. Et justement, le projet est en lien avec ces collectivités pour disséminer, partager, faire connaître, etc.
Et comment sont répertoriés justement aujourd'hui ces projets et de quelle façon ils vont pouvoir se développer ?
Bien, chacun selon son... la typologie du projet. Il y a par exemple 3 guides conférencières qui sont basés en Alsace, qui ont travaillé ensemble pour créer en fait un manuel à la fois numérique et papier pour des guides, enfin leurs collègues en fait de l'association des guides conférenciers d'Alsace. Elles vont probablement aussi l'ouvrir par la suite aussi du côté allemand pour transmettre en fait toutes les connaissances qu'elles ont acquises et qui permet de créer de nouvelles possibilités de transmission de ces guides vis-à-vis de public. Et dans le même ordre d'idée, il y a une personne qui a créé en fait une forme de son business, je dirais, par rapport à l'accueil de juifs américains qui viennent dans la région et qui s'intéressent. Et comme elle est américaine d'origine, elle a eu tous les contacts, les connaissances, et là maintenant, elle accueille ou des groupes ou des familles pour différentes raisons, des recherches généalogiques ou simplement des connaissances des lieux où ont vécu la famille, ou peut-être pas, mais simplement par curiosité culturelle.
Les porteurs de projets ont présenté justement leur travail de cette période-là à la CEA très récemment devant la personne déléguée en charge des cultes et de la mémoire, Martine Dietrich. De quelle façon la CEA intervient aujourd'hui dans ce programme de Midorledor?
Alors la CEA intervient sous 2 aspects. L'aspect touristique avec Alsace Développement et Alsace Destination Tourisme, pardon, l'ADT, et Marc Lévy, le directeur, était présent aussi à cette réunion, et une personne de l'ADT travaille à temps très partiel sur des projets que nous développons. Donc l'aspect touristique est important, comme je l'ai signalé avec les guides aussi, mais il y a aussi l'aspect transmission avec Philippe Ichter, qui vient, je crois, parler de temps en temps aussi à vos micros, et les veilleurs de mémoire qui étaient invités à participer à cette réunion, et certains sont venus, et même certains ont participé en tant que membre du groupe pour être formé et ensuite transmettre, dont une veilleuse de Cernay qui était très, très enthousiaste et très engagée.
Donc la présentation des projets, bah évidemment, c'est le début de quelque chose qui aujourd'hui va prendre tout son essor. Juste avant cette interview, vous me parliez assez ému d'un certificat de passeur de mémoire que vous remettiez à certains porteurs de projets. C'est important, ça, la validation au-delà de l'aspect, on va dire, patrimonial, mais passeur de mémoire, il y a quelque chose, il y a presque une lourde responsabilité que vous remettez dans les mains, mais une responsabilité et un honneur surtout.
Oui, pour moi, c'est une fierté, c'est une satisfaction de leur remettre ce certificat que j'ai fait faire en français, en allemand. Et pour eux, je veux dire, c'est la preuve de l'effort qu'ils ont accompli et bon, qui n'est qu'un commencement, puisque, je veux dire, c'est une flamme qu'on entretient précisément et c'est un de nos objectifs que de pouvoir poursuivre avec les générations futures.
Françoise El-Khoubi, merci infiniment d'être passée nous voir. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Les Routes du Judaïsme Rhénan et vous êtes venue nous parler de ce programme européen Midor Ledor qui est en réalisation conjointe avec la Maison Bleue de Breizak, la Blaushaus. Merci pour toutes vos actions tout au long de l'année, pour ce que vous faites pour ce patrimoine si important et puis pour votre venue, d'être venue nous voir dans nos studios. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir permis d'en parler sur les ondes.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.